Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, et quel public! Ogwaron Control, ça se trouve près de la gare de Lyon, à Paris, avec les bronzés de la critique. J'ai nommé Olivia de Lamberterie, duel Nelly Caprielian, des Inrecuptibles, qui n'est pas très bronzé, Jean-Claude Raspien-Jas de La Croix, et avec Frédéric Becbédé, en pleine forme, qui nous vient de Biarritz, mais également du Figaro Magazine, tous ayant lu, évidemment, les 524. Nouveau roman de cette rentrée littéraire, dont ceux dont nous allons parler ce soir. Orléans de Yann Moix, La mer à l'envers de Marie Darrieussecq, Civilisation de Laurent Binet, Les choses humaines de Karine Thuil et Mon année de repos et de détente de Tessa Moschfegh. Dans le courrier de la semaine, Muriel Gilles ne partage pas vos avis négatifs, voire destructeurs, sur le livre de Laetitia Colombani, Les Victorieuses chez Grasset. Effectivement, il y a des clichés, mais j'ai aimé découvrir Blanche Perron et son engagement. Je vous conseille donc d'aller faire un tour au Palais de la Femme et vous serez touché par les rencontres que vous y ferez. Jean-Sébastien nous écrit de Tunisie. Je ne peux que plus soyez à l'avis unanime de vos critiques sur le dernier ouvrage de Jean-Christophe Ruffin. Un vrai plaisir de retrouver cet auteur que j'affectionne ici à son meilleur. Salutations de Tunis. Nous avons le plaisir de vous écouter chaque semaine en famille. Au contraire, Françoise Destève s'étonne que personne au masque et la plume n'apporte de réserve sur la qualité de ces 7 mariages de Jean-Christophe Ruffin. Sans doute avez-vous la nostalgie des contes enfantins et des textes à l'eau de rose. Ce livre m'est tombé des mains tant son style est mièvre et fade. C'est vrai que je ne suis pas fan des livrets d'opérette. Charles Goldberg, qui habite Fort Lauderdale en Floride, juge que la détestation de Lauren Groff pour la Floride est totalement justifiée. Il y a quelques mois, j'ai lu dans le Miami Herald qu'une mère avait poignardé sa fille adolescente et l'avait tuée parce qu'elle avait un petit ami. C'est l'État qui abrite le plus de malades mentaux. C'était à propos de ce livre qui s'appelait Floride aux éditions de L'Olivier. Un message pour Frédéric, signé d'une Carlotta au sein malheureusement léger. Cher Masque, pour rebondir sur l'idée de Frédéric Becbédé concernant l'impossibilité pour des saints, d'être à la fois petit et lourd, je tenais à dire que Louis Aragon, lui aussi, dans Les Beaux Quartiers, parle des saints petits mais lourds, en l'occurrence les saints de Carlotta, page 397 de l'édition Folio.
Oui, non, pardon. Alors,
voilà. Alors, à propos de monsieur, de madame James, chez Lattès, qui m'a valu un courrier abondant, qui a inspiré nos auditeurs. Clara nous écrit, mon cher Masque, tu prêches des convaincus pour ce qui est de monsieur, mais ta souffrance ne fut pas vaine. Elle nous a offert un des moments les plus jouissifs, je ne sais pas ce que ça veut dire, de l'histoire de l'émission. Et à propos du fameux Zot cité par Nelly, Zot. Je pense, nous dit Clara, que c'est simplement un moyen d'utiliser le mot fuck sans risquer la censure. Eh bien, désolé, j'ai regardé tout bêtement sur Internet et en fait, non, l'héroïne, je vous rappelle qu'elle est albanaise. Mmh. Elle est héroïne dans tous les sens du terme. Eh bien, en albanais, Zot veut dire mon Dieu. Mmh. Pas fuck, mais
d'accord,
mon Dieu. Ça change
oui.
tout. Sibylle précise que dans Monsieur, l'instrument, je ne parle pas de la queue en feu à laquelle faisait allusion Jean-Claude.
Ah non, c'est pas moi.
Je crois que c'est encore moi, excusez-moi.
Mais du piano. Et alors, Sibylle sait que ça n'était pas un Steinway, comme vous l'avez dit, mais un Fazioli. ce qui change tout là encore. Marion Cibla est surprise qu'Olivia de Lamberterie ne connaisse pas le principe du mot de sécurité instauré par les adeptes du SM, le masochiste étant le maître ou la maîtresse du jeu, c'est lui ou elle qui décide quand ça va trop loin qui utilise un mot précis pour intimer l'ordre à son gentil bourreau de cesser de le ou la martyriser. C'est aussi devenu un gag récurrent dans beaucoup de comédies américaines pour se sortir d'une situation gênante. Voilà, je suis assez fier d'avoir appris cette chose essentielle à Olivia. Maintenant, tu sauras ?
Oui, c'est mon quart d'heure de ridicule, mais je propose aux adeptes du sadomasochisme de prendre comme nom de code, ça s'appelle comme ça, nom de sécurité,
le
masque
word.
Et la plume.
Voilà. Hein ? Oui, oui, c'est bien.
Je ne suis pas sûr qu'on arrêtera. Enfin, une jolie lettre reçue en août de Juliette Siri. Chère plume, j'ai commencé la lecture très jeune et je dévorais les livres. Après la mort de mon père, je n'ai plus ouvert un seul livre. L'envie m'avait quitté. La lecture m'est devenue étrangère. J'ai par la suite écouté avec plus d'intérêt vos critiques. Peut-être cherchais-je un remède à mon mal. Je suis devenue une podcasteuse et j'ai voyagé dans le temps avec vous, réécoutant avec délectation votre amour des livres. Et c'est arrivé. Vous avez réussi à me redonner le goût de lire. À nouveau, je pousse la porte du libraire avec des envies de lire, une envie de lire. Alors, merci. Eh bien, merci aussi à vous, Juliette, Siri, pour votre fidélité. Allez, on commence avec Orléans. Un roman, plutôt un récit de Yann Moix chez Grasset, construit en deux parties, dedans et dehors. Deux angles de vue différents pour raconter le même calvaire, parce que c'est un calvaire, celui d'un enfant battu. D'ailleurs, il y a marqué roman, mais c'était clairement un récit autobiographique, non ? Enfant battu dans la bonne ville d'Orléans, sous la statue de Jeanne d'Arc, et dans l'indifférence apparemment générale depuis son plus jeune âge. Jusqu'à la fin de l'adolescence, Yann Moix s'est pris des beignes, et pire encore, dans le rôle des bourreaux, les deux parents, il préfère les appeler géniteurs, se valaient bien, la mère rêvait de le noyer dans l'eau du bain, le bombardait de crachats et de verres à moutarde, le traitait publiquement d'espèce d'enculé, et lui hurlait « Jamais tu n'aurais dû naître, jamais ». Quant à son père, il l'a extirpé une nuit d'hiver de son lit, l'a poussé en pyjama dans une bagnole, l'a jeté dans un fossé, dans une forêt près d'Orléans, et il est reparti sur les chapeaux de roue. Jusqu'à l'aube, très vite, donc, Yann Moix va apprendre à se défendre, plutôt à se réfugier dans les livres. Et là, on voit que Vercors, Gide, Peggy, Céline vont devenir très vite ses alliés et ses protecteurs. Et dit même avoir commencé dès le cours élémentaire, deuxième année, toujours pour se protéger, sa carrière de graphomane. C'est quand même du brutal, ce livre, non, Frédéric ?
C'est du brutal. Je crois que c'est son meilleur livre. C'est en tout cas peut-être le premier. Il parlait déjà de ça dans Naissance, il me semble-t-il aussi dans Rompre. Mais le style a changé. Et c'est ça qui est nouveau. C'est que c'est tellement brutal qu'il a perdu tout lyrisme, et qui était quelque chose qu'on pouvait éventuellement lui reprocher auparavant. Il n'y a plus les grandes pages enflammées, et c'est extrêmement sobre, tenu. Ce sont en fait que des bribes de souvenirs.
Année après année, classe après classe.
Classées par, selon les années scolaires. Oui. Et il y a ces deux parties, dedans, dehors. Dedans, parce que c'est à l'intérieur du foyer familial, plutôt, et puis dehors, quand ça se passe au lycée. Donc c'est une suite de tortures, d'humiliations.
Mais c'est dingue quand même.
Pas seulement avec la famille, mais aussi avec les camarades de classe, puisque ça se termine par l'affichage de ses lettres d'amour à une fille en classe. Tout le monde éclate de rire en lisant ses lettres d'amour. Personnellement, si une seule de ces scènes m'était arrivée, je pense que je serais mort. Donc je ne sais pas comment il a fait. Il dit qu'il a survécu grâce à la littérature. La lecture d'abord et l'écriture ensuite. Mais en même temps, il dit qu'il n'a pas survécu. Et c'est ça que je trouve très original. Parce que les enfants martyrs, il y en a beaucoup. Chez Jules Renard, Daudet, Hervé Bazin. Mais là, la nouveauté, c'est que c'est l'anti-cyrulnique. C'est-à-dire qu'il dit « Ce qui est cassé ne se répare pas. Ce qui est brisé se brise chaque jour davantage. » Donc, Moix ne connaît pas la résilience, et ce livre-là, c'est un livre très pessimiste, puisque c'est un livre purement de violence.
Et d'une violence à peu près inimaginable. Et en plus, encore une fois, dans l'indifférence générale, il y a un moment donné, il vole une plaque de chocolat. Il est en maternelle, enfin non, un peu après. Ouais. Il vole une plaque de chocolat chez un épicier. La mère lui met dans le dos un panneau avec « Je suis un voleur », et elle le promène dans le quartier comme un chien, et personne ne bronche. Nelly.
Oui, moi j'ai trouvé que c'était un très bon texte, un des meilleurs Moix qui
Enfin, moi, ça varie avec moi. Enfin, mes avis sur moi, que écrivain, varient avec ses livres. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui vraiment, je trouve, se ressemble. Des fois, c'est n'importe quoi, et des fois, c'est très, très bon, comme le rappelait Frédéric, Naissance. Enfin, pour moi, c'était une sorte de.
Inspiré
par, par Tristram Shandy. Il y avait quelque chose d'un peu de Laurent Stern contemporain sur cette espèce de pavé autour de sa naissance. Alors, moi, c'est un truc dont j'avais entendu parler. Voilà, c'était, je sais pas où.
Mais parce que comme dit Frédéric, il l'a évoqué, hein,
ici ou là, il l'a déjà évoqué. Voilà. Alors, j'avais peut-être un peu oublié que c'était dans les livres, mais en tout cas, ça m'a pas surpris, mais en effet, c'est extrêmement dérangeant. C'est-à-dire, il y a un moment donné, comme tu le disais, Jérôme, où on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, il y a quelqu'un qui va réagir, il y a quelqu'un qui va voir que cet enfant souffre, il y a quelqu'un qui, enfin, la scène que tu cites, qui est une des premières scènes de violence, quand son père le balance dans un ravin, je me suis dit, dans la forêt, et le laisse seul dans la forêt pendant plusieurs heures, je me suis dit, la mère va le récupérer. Là, on se dit enfin, il y a quelqu'un. Et la mère, ça va être encore pire.
Elle le récupère pour l'insulter.
Alors, moi, ce que j'ai adoré, c'est les pages sur aussi la littérature. C'est-à-dire comment. Parce que là, on en parle, on a l'impression que ça peut être un peu une pause venant d'un écrivain. Oui, j'ai été sauvée par la littérature. Bon, il y a des pages, parce que le premier, il me semble, c'est Gide.
C'est une nourriture terrestre.
Et il dit c'était là désormais que j'habiterais, que je logerais. Non pas chez Gide, mais en Gide, je serai non pas gidien, mais Gide lui-même, ou plutôt une excroissance inédite de Gide, un morceau de Gide disponible, valable, pour mon temps de vie sur Terre. Et là, on voit, on se retrouve tous à des niveaux divers, enfin moi j'ai pas été enfant martyr, mais des moments où on se sent mal, des moments où on s'est senti angoissé dans l'enfance, on a l'impression qu'on n'y arriverait pas, on a eu, je pense, un peu tous ce rapport à la littérature, ou certains autres diront au cinéma, et je trouve que ça, il l'exprime bien. Alors moi, j'ai juste quand même un petit bémol pour finir, c'est le style. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Frédéric quand Frédéric dit que c'est brutal. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de préciosité, un peu de confession 19e.
À l'usage des accords de subjonctif.
Voilà. Et là, je me dis, c'est quand même étrange et c'est peut-être aussi subtils, l'héritage de certains auteurs qu'il a lus.
Olivia.
Oui, c'est un très beau livre. Je pense que c'est un roman. Et non pas un récit, grâce à sa construction et grâce à sa langue. Parce que ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est un livre qui est quasiment insoutenable par ce qui est raconté, par la perversité des parents, qui donne vraiment le vertige, mais qui est soutenable grâce à la langue qui est à la fois assez précieuse, parfois un peu trop, et en même temps très sobre, d'une certaine manière, très froide. C'est un livre qui raconte l'insoutenable, mais avec énormément de distance, ce qui permet à l'auteur d'éviter le pathos, et je trouve au lecteur d'éviter le voyeurisme. D'autant qu'on n'a pas la réponse à plein de questions. La question quand même qui est obsédante dans le livre, c'est pourquoi ses parents haïssent à tel point leur enfant. En fait, on ne sait pas. Oui. Il n'y a aucune psychologie.
Parce que le frère, lui, ne subit pas le même mépris ni la même haine.
Surtout que c'est assez rare dans le cas de parents maltraitants que ce soit les deux parents à ce point qui s'entraînent l'un l'autre. Et puis, l'autre question, c'est quelle a été après l'attitude de Yann Moix vis-à-vis de ses parents, parce que ce sont des attitudes qui relèvent du pénal. Est-ce qu'il s'est révolté contre eux? Est-ce qu'il les a attaqués, accusés?
À la fin, il raconte qu'il prend un caillou pour aller taper sur son père et il ne le fait pas, il s'arrête.
Voilà, et je trouve que ce qui est beau, c'est que tout d'un coup, l'émotion jaillit sans vraiment qu'on s'y attende, quand tout d'un coup, il raconte une scène épouvantable et puis il dit « Et pourtant, j'aimais le soleil, j'aimais la pluie, j'aimais la vie et si mes parents l'avaient su, ils m'auraient tué. » Et là, tout d'un coup, vous êtes vraiment saisi. Et puis après, je trouve que ce n'est pas par hasard que le livre s'appelle « Orléans », parce que c'est quand même aussi le procès d'Orléans. C'est ce que tu disais, Jérôme. La maîtresse à qui on amène l'enfant en pyjama
avec
pour l'humilier,
avec des
qui ne dit rien.
Qui dit rien.
L'enfant, il y a un dîner, il a une tellement mauvaise note qu'il fait dans sa culotte. Et au dîner à table, on va lui servir ses excréments dans une assiette devant les invités qui ne disent rien. C'est absolument sidérant. Et je trouve que la deuxième partie est extraordinaire parce que là, il se montre du dehors. Et il se montre vraiment sans concession, comme un personnage assez terrible et qu'on humilie encore et encore et encore.
Jean-Claude.
C'est vertigineux comme livre.
Moi, je dois dire que, j'ose à peine l'avouer, mais j'ai toujours trouvé que Yann Moix, c'était une sorte de tête à claque, de provocateur, de tête à claque.
Mais là, attention, là, tu parles de l'écrivain ou tu parles de...
Non, mais il me faisait cette impression-là.
Chroniqueur de télé.
Et là, je dois dire que... non, mais y compris dans ce qu'il écrivait. Et là, je dois reconnaître que je baisse les armes et je comprends aussi pourquoi cette impression-là, il donnait. Ce qu'il faut voir dans ce que vous dites, c'est qu'il a affaire à la haine, à la bestialité et à la volonté de le détruire. C'est même pas de lui donner des coups et tout ça, c'est de le détruire. C'est-à-dire qu'on l'enfonce dans sa médiocrité, dans son insignifiance, on le renvoie à son néant en permanence, et surtout on cherche à le détruire. C'est-à-dire qu'il débarrasse le plancher, qu'on ne le voit plus, qu'il n'existe plus. Donc tous les processus de dégradation sont à l'œuvre, et surtout avec une succession d'inventions qui dépasse l'imagination. C'est-à-dire, il y a des scènes absolument pétrifiantes dans ce livre. Le piano qui est détruit à coups de marteau par le père, les livres jetés. Enfin bon, c'est un processus de destruction absolue qui s'acharne. Et pour moi, il n'y a pas de dedans et de dehors. C'est-à-dire que quand il trimballe ses ecchymoses à l'extérieur, il retrouve le même processus. Moi, je vois pas la césure. Elle est la même partout. Alors, en effet.
C'est un regard différent porté sur les mêmes années.
Oui, mais lui, c'est le même. Lui, c'est le même et il subit exactement la même chose, ce qui est fatal. Et sur la langue précieuse dont vous parliez, moi, je la vois, autant elle m'a beaucoup agacé dans plein de livres, autant là, je la vois comme une revanche.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il reprend le pouvoir sur la langue et il en fait quelque chose parfois de somptueux. Moi, ces imparfaits...
Il en fait même une arme, je trouve.
Oui, et ces imparfaits du subjonctif, moi, me vont tout à fait. Non, je trouve que c'est un très
bon livre. C'est Orléans, le récit, je persiste, moi, de Yann Moix, chez Grasset, parce que tout est vrai, me semble-t-il en tout cas, que le masque vous conseille. Les choses humaines chez Gallimard, le 11e roman de Karine Thuil, pour laquelle vous n'avez pas toujours été très tendre. L'histoire rappelle bien des faits divers post-MeToo. En apparence, le couple Farrell est étincelant. Lui, Jean, septuagénaire, qui couche avec les stagiaires, est un journaliste politique ultra présent sur les plateaux de télé et dont la devise est, comme Frédéric, tout contrôler, ne rien lâcher.
Oui.
Sa femme Claire, de 27 ans, sa cadette, est une essayiste connue pour ses engagements féministes. Ils ont un fils, Alexandre, qui étudie dans une université californienne. Et puis, les Farrell se séparent. Claire part vivre avec son nouveau compagnon, Adam. Et c'est alors que le scandale éclate. Alexandre, le fils parfait, aurait, un soir de shit et d'alcool, abusé de Mila, la fille d'Adam, laquelle dépose une plainte pour viol, et c'est le début de la chute des Farrell, un roman inspiré de l'affaire d'une jeune femme de 23 ans, victime d'un viol sur le campus de l'université de Stanford. La fameuse affaire Stanford, c'était en janvier 2015. Olivia ?
Je trouve que c'est un roman très intéressant. Je trouve qu'il y a, comme toujours chez Karine Thuil, une sorte de machinerie romanesque avec des personnages très incarnés, un peu comme dans les séries télé, moi je trouve. Les personnages incarnent leur idée et sont tous mus par un déterminisme social. Je trouve que les 50 premières pages sont un peu lourdes parce que justement elle met en place cette machinerie de manière un peu peut-être trop démonstrative. Mais une fois qu'on a passé, je trouve, et qu'on accepte ce principe, je trouve que c'est un roman très intéressant sur la culture du viol, sur le consentement, sur la zone grise. La deuxième partie me semble bien meilleure que la première. C'est vraiment une démonstration judiciaire, comme dans les films américains où vous avez un procès.
La machine médiatico-judiciaire qui se met en place.
Et je trouve que vraiment, moi, c'est passionnant. J'ai trouvé que les plaidoiries étaient très intéressantes. Et au milieu de tout ce roman, il y a un personnage que je trouve passionnant. C'est la femme... Le héros, enfin, ou le anti-héros, je sais pas comment l'appeler, est une sorte de personnage très déplaisant de 70 ans qui veut durer, qui est absolument prête à tout pour durer. Pendant longtemps, je me suis dit, il est très caricatural, jusqu'à penser que j'en avais rencontré quand même beaucoup, des gars comme ça, à la télévision ou à la radio.
Surtout journaliste politique.
Surtout journaliste politique, donc finalement, il n'est pas si caricatural que ça. Mais celle qui est intéressante...
Tu peux citer des noms, peut-être ? Tu as des noms à citer
de... Ah bah oui, on peut faire une petite liste. Je ne vais pas les faire là, mais si vous voulez m'écrire, je me ferai un plaisir de vous donner, le personnage qui a inspiré Karine Thuil.
Tu peux utiliser un mot de sécurité, si tu veux, là.
Le masque et la plume. Non, j'aime le personnage de Claire, qui est sa femme, qui est une normalienne féministe. Et il y a dans ce livre toute la problématique du féminisme aujourd'hui, et notamment à propos des événements de Cologne. Je trouve que c'est un livre très intelligent.
Jean-Claude ?
Moi, j'ai toujours, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours défendu Karine Thuil et je vais continuer. Parce que il y a ce que vous dites, en effet, sur la culture du viol, mais moi, ce que je vois chez Karine Thuil, c'est toujours cette volonté de brasser l'esprit de l'époque. C'est-à-dire tout ce qui traîne, tout ce qui est là, comme ça, tout ce qui est flottant, tout ce que tout le monde charrie de pensées communes, cet air du temps. Et je trouve que la façon dont elle s'empare de ça, la façon dont elle y va franco, tout ce qu'elle aborde dans ce livre est absolument passionnant. Je trouve qu'elle a le courage d'y aller, qu'elle y va avec une vraie force, qu'il y a les situations que vous décrivez, mais c'est vraiment, moi, ce décor permanent dans ses livres et la façon dont elle rentre là-dedans et avec beaucoup de conviction. Et les personnages existent, les situations existent, on les reconnaît, on pourrait en effet mettre des noms, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que sur les errements du féminisme, je trouve que sur la dégradation du métier de journaliste, je trouve que sur la confusion des esprits, sur la montée des communautarismes, plusieurs communautarismes, elle y va franco. C'est-à-dire, ce qu'elle dit, on ne l'entend pas beaucoup. Et je trouve qu'elle a une façon de nous mettre sous les yeux ce qu'on ne veut pas regarder. Et moi, j'aime assez, chez Karine Thuil, cette constance, cette ténacité, quelles que soient les critiques que vous allez lui faire.
Bah, personne n'attend.
Non, mais on est à la radio, mais je vois mes camarades. Je les vois, je les vois.
Frédéric, t'allais dire quelque chose ?
Les bras m'en tombent de vous entendre dire du bien de ce livre. Enfin, franchement, c'est cliché, c'est idiot, les dialogues sont débiles, les personnages caricaturaux. On dirait un épisode raté de Faites entrer l'accusé.
Pourquoi cette haine, là?
Vous savez, c'est le genre de livre...
Non, il ne pas exprimer, Jean-Claude.
On est là pour discuter.
Il a le droit de parler.
Pourquoi cette haine?
J'ai pas de haine, je suis sans haine. Je suis absolument sans haine. Mais si, d'avoir été forcé de lire ce livre. Là, oui, c'est vrai que j'ai pas de la haine, j'ai de la rancune, en fait. Parce que c'est quand même, j'ai qu'une seule vie. Je vais vous citer des extraits de ce chef-d'œuvre. Page 37. Passé 50 ans, les femmes sont transparentes. Alors là, j'ai dû vérifier que j'étais pas en train de lire Yann Moix. Le journalisme me constitue profondément. Qui parle comme ça, à part dans les interviews sur BFM TV?
Vieux journaliste à la con.
Oui. Alors là, je peux dire qu'il y en a plein. Il y en a
attaché
plein.
À son
alors
fauteuil. Là... On en connaît plein. Alors, des journalistes
que c'est
qui
sa femme
aussi
qui dit
bêtement.
Ça. Manque de bol, c'est sa femme qui
oui,
dit
non,
ça.
Mais oui, mais il y en a plein. Alors là, dans ce milieu-là, dans notre milieu, t'en as plein qui sortent ça. Alors là.
Bon, continue.
Je continue. Elle lui dit à un moment, sa maîtresse lui dit, un jour tu me quitteras pour une autre femme, elle sera beaucoup plus jeune et elle, tu l'épouseras. Non mais on a l'impression de regarder une telenovela brésilienne et c'est un roman publié dans la NRF.
Personne ne parle comme ça ? Dans la vie, personne ne parle comme ça ?
Non, dans les feuilletons brésiliens, oui.
Non, mais je te parle dans la vie, là.
Dans les feux de l'amour.
Est-ce que dans la vie, personne ne parle comme ça ?
Pourquoi tu es haineux à ce
mais
point-là,
Jean-Claude ? Parce que j'aime pas cette façon de piétiner ce livre.
Non, je piétine
pas. Je n'aime
pas
ça.
Ça interroge notre rapport au roman.
Jean-Claude.
Qu'est-ce que c'est que le roman ? Si le roman doit être une photographie de toutes les banalités qu'on voit partout, alors c'est très réussi.
Non,
tu as raison.
Non, c'est pas une photographie. Non.
Parce qu'un roman, ça doit être écrit.
Elle photographie pas.
Il doit y avoir un style, il doit y avoir une recherche de forme.
Il y a.
Et en l'occurrence... je vois pas ça. Non. Dans ce livre-là, c'est du storytelling, c'est pas de la littérature.
Nelly,
je viens sans haine.
Sans armes et sans haine.
Je suis pacifique ce soir. Non, moi, je n'ai pas aimé ce livre, malgré des moments d'intelligence, en effet, de Karine Thuil, que je ne vais pas lister ici. Je continue à avoir un ton de voix extrêmement doux.
Mais tu as une voix très
et charmant.
On dirait que tu présentes la météo, là.
Je pense que c'est un peu une arnaque tout de même, ce livre, parce que je trouve que Karine Thuil, très souvent, c'est ce qui m'avait arrêté aussi pour les précédents, surtout le précédent, elle prend des personnages, en effet, Olivia, tu as raison, on sent qu'ils existent en vrai, on les retrouve, on sait qu'il y a une part de réel, voire de vérité qui les fonde. Néanmoins, elle les met dans une espèce de chaudron magique qu'elle agite et qu'elle tourne dans tous les sens, et rien n'en sort, à part, en effet, quelques moments où on se dit, ça c'est intelligent, oui, ça c'est plutôt bien vu sur la presse, ça c'est plutôt... voilà. Mais au bout du compte, je trouve que c'est quand même... très très vide. Ensuite, moi je pense que ces personnages archétypaux qui sont enferrés comme ça dans leur vie, on nous raconte et machin chose et Alexandre faisait ci et il allait rencontrer telle personne et il allait se diriger vers telles études et tout ça. Moi j'ai l'impression que c'est un résumé de début de film, mais c'est pas du tout un roman. Un roman, c'est de développer des personnages et pas d'avoir 100 pages de résumé pour arriver à, en fait, ce qui l'intéresse, c'est le procès. Ensuite, moi, cette façon quand même de surfer à chaque fois Karine Thuil sur l'air du temps, je trouve que ça commence à devenir opportuniste. C'est-à-dire, en plus, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur le féminisme, sur MeToo et sur la zone grise, qui sont en effet, vous avez raison, des sujets très importants. Moi, la fin me gêne un peu. La fin, je la trouve anti-féministe.
Comme on ne va pas la raconter.
La
pas
fin,
plus qu'au
non,
cinéma.
Mais bon, bref. Oui, alors est-ce que je la raconte? Est-ce
non.
que je la raconte
non,
comment,
non,
comment
non,
dire
non,
bah, non.
Non, non.
Moi, je trouve qu'à la fin, on en arrive à quelque chose qui est plutôt rire des femmes qui portent plainte, plutôt rire des femmes qui
non,
annoncent leur
non,
consentement, qui
non,
annoncent leur
vrai,
consentement
non,
au départ.
Mais
la fin
vrai,
est quand même
vrai,
extrêmement dérangeante. Si c'est,
non,
non. Nelly, c'est ce qu'elle pense.
Nelly,
c'est ce qu'elle pense. Non, mais une femme a droit de dire si elle consent, à quoi elle consent. Là, on parle de site de rencontre. Bon, on ne va pas vous raconter exactement la fin.
Vous êtes déjà en train d'en dire beaucoup.
Non, mais je
trouve qu'elle est pas mal, cette fin.
Oui, mais
c'est la seule chose surprenante du livre, c'est les quatre dernières pages.
Et par ailleurs, si vous voulez, moi je trouve que, tout simplement, Karine Thuil, elle a trop lu Philip Roth, elle essaye d'être Philip Roth, et une des chutes de certains passages du livre, c'est pour nous dire que les choses humaines, le titre du livre, c'est « On est, on meurt, et entre les deux, on aime ou on n'est pas aimé, et puis c'est comme ça, et c'est humain ». Enfin, je trouve ça quand même très très faible.
Les choses humaines, c'est pardon. Karine Thuil, c'est chez Gallimard. La mer à l'envers, à propos de sujets d'actualité, tiens, La mer à l'envers. Le nouveau roman chez POL de Marie Dariussec, l'auteur de Truisme, pour un roman qui commence par une croisière de Noël kitsch et luxueuse en Méditerranée ou rose. Une psychologue embarque ses deux enfants, Emma et Gabriel. Leur route croise celle des migrants venus d'Afrique sur une embarcation de fortune. Ça, c'est le sujet d'actualité. Le beau navire de croisière les recueille et Rose donne son portable, ou plutôt celui de son fils, à un Nigérian, Younes, qui appelle à l'aide au sens propre. Arrivent ensuite les gardes-côtes italiens qui emmènent les migrants sur le continent et avec eux le téléphone de Gabriel qui va jouer ce téléphone. Un rôle moteur dans ce roman qui fait le lien aussi entre le Pays Basque cher à Frédéric où Rose part s'installer et le port de Calais. Jean-Claude.
Non, c'est marrant parce que...
Qu'est-ce qui est marrant?
Je vais le dire. Non, c'est marrant parce que ce que vient de dire Nelly, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à ce livre. C'est-à-dire qu'on a trois livres, on a trois livres en un, avec un vrai bon sujet, un vrai grand sujet. Alors, trois livres en un, La Croisière.
Très souvent traité, il faut le dire quand même, au cinéma.
Oui,
et de plus
aussi,
en plus.
Oui, bien sûr. Le Retour au réel, donc on se rapproche de chez Frédéric, et La Chute. Or, il se trouve que tous les clichés que tu décris chez notre amie Karine Thuil, sont remplis dans ce livre-là. C'est-à-dire que oui, La Croisière est très bien décrite, ça c'est tout à fait intéressant. L'univers de La Croisière est vraiment très bien décrit, on y est, il n'y a pas de souci. L'arrivée des migrants aussi, c'est-à-dire cette irruption d'un réel un peu problématique et embêtant qui vient de troubler La Croisière, c'est vraiment bien. Le retour au réel est déjà beaucoup plus stéréotypé et correspond à ce que tu viens de décrire chez Karine Thuil. Quant à La Chute, elle est totalement bêta, pour le coup stéréotypée, pleine de bons sentiments.
Comme on ne la racontera pas.
Et elle n'est pas à la hauteur de l'ambition de ce livre, ni de la réputation de Marie Dariussec.
Nelly.
Voilà, quoi.
Mais oui, mais en fait, là où je ne peux pas contredire Jean-Claude, c'est que en fait, tous les romans de la rentrée sortent beaucoup sur des choses de l'actualité, même par un biais complètement détourné. Par exemple, je pense au Laurent Binet, dont on va parler sur l'Europe. En fait, je trouve que c'est très difficile de parler d'un livre qui parle de rien, en fait, qui n'aurait pas de sujet vraiment chaud d'actualité. Donc c'est vrai que Marie Dariussec ne fait pas l'économie du migrant, ne fait pas l'économie de la migration.
Ne fait pas l'économie du migrant, ça va rester, ça.
Mais en parle de façon très intéressante. C'est-à-dire, je pense qu'elle aurait pu être, avoir une forme, non pas de malhonnêteté, mais enfin vouloir retracer tout un parcours de migrants, tout en ayant été interviewée des tas de migrants, d'ailleurs ce qu'elle a fait pour ce livre. Mais là, elle nous montre comment... En fait, elle nous parle de nous. Elle nous parle d'une bourgeoisie, d'une classe moyenne parisienne, qui vit plutôt confortablement, sans non plus de grand luxe, qui a ses propres problèmes, des problèmes d'habitation, d'appartements trop chers.
Qui habite le Pays Basque.
De trop d'alcool. Non, mais j'aime bien aussi le mari alcoolique. Enfin, comment cette femme gère son mari alcoolique, qui elle-même boit toujours un petit coup de trop. Et voilà, le migrant, qui est quelque chose qui restait à la télé, qui restait dans la presse, fait à un moment donné irruption dans sa vie. Et ce qui m'a intéressée, c'est aussi comment, en fait, ce qu'elle travaille, c'est l'héroïsme. Comment on peut se montrer non pas héroïque comme certains qui sont héroïques tous les jours et qu'on admire, mais une minute dans sa vie, une heure dans sa vie, un mois dans sa vie, comment on peut être héroïque, non pas changer la face du monde, parce que ça, on s'en sent complètement impuissant. Je pense que ce n'est pas possible, juste seul. Mais au moins, comment on peut apaiser la vie d'un autre qui souffre.
Oui, mais ça, c'est
et je trouve cette question de l'héroïsme au quotidien, je trouve que je suis désolée, ça n'est pas un cliché, ça n'est pas assez posé. En général, comment, qu'est-ce qu'on fait, nous, chacun, on parle de grandes organisations, enfin tout ça c'est très normal et c'est juste d'ailleurs, mais comment nous, chacun, qui croisons des migrants, des gens dans la rue, toute la journée, qu'est-ce qu'on fait ?
Je suis pas sûr qu'il sera traduit en italien, cela dit.
Et par ailleurs, j'adore, moi, le ton de Marie Darrieussecq. Je trouve que il y a des tas de digressions qui m'enchantent.
Non, mais je veux dire, sur l'attitude héroïque, ce qu'il y a dans ce livre, c'est un chromo de l'héroïsme. C'est-à-dire, ça, c'est même pas crédible sur la longueur. C'est crédible dans l'intention, il n'y a pas de souci, respect. Respect sur l'intention du personnage. Ensuite, ce qu'elle fait de cet héroïsme-là et ce qu'en fait Marie Darrieussecq, c'est un chromo de l'héroïsme.
Alors,
c'est-à-dire,
ça,
c'est un cliché.
Non,
ça ne marche pas. À un moment, ce n'est absolument pas crédible. Et la chute, elle est gênante. Elle est gênante parce qu'elle est bêta par rapport à la gravité du sujet.
Le véritable héros, c'est Jean-Claude, qui a lu le livre jusqu'au bout. Et ça, vraiment, pour ça, tu mérites une médaille. Non, moi, il y a un mystère, Marie Darrieussecq, parce que Truisme, c'était un livre très libre, très insolent.
Pour un premier roman, c'était...
Oui, c'était franchement, épatant. Truisme, c'était Balance ton porc, 20 ans avant.
Au sens propre.
Oui, 20 ans avant. Donc, il y avait quelque chose de très intéressant. Et j'ai l'impression que depuis, elle cherche à se faire pardonner ce succès initial en écrivant des romans toujours politiquement corrects ou alors un peu trop intello ou dans une langue un peu trop compliquée. C'est très étrange, c'est très...
C'est pas du tout compliqué, la langue.
Non, le début est très bien. Les 80 pages sur le Titanic, c'est vraiment très très bien. Ça, je trouve que c'est très réussi. Le mélange de luxe, ringard et de misère qui débarque, ça, c'est fort. Mais après, je suis désolé, après, moi, je me suis vraiment ennuyé et je me demandais à quoi ça servait. J'avais encore, comme pour Karine Tuile, j'avais l'impression de regarder un film pour les dossiers de l'écran et qu'après, on puisse débattre pour ou contre.
En fait, tu m'en as beaucoup voulu cet été.
Oui, je t'en ai beaucoup voulu. Oui. Et je trouve que, et je voulais, j'ai fait ma petite enquête. Dans les 3 dernières années, voilà la liste des gens qui ont écrit des romans sur les migrants. Maïlys de Kerangal, Olivier Adam, Fatou Diomé, Delphine Coulin, Émilie de Turckheim, Laurent Godet, même Yann Moix, même JMG Le Clésio. Donc peut-être que les romans sur les migrants, maintenant ça va.
Et
hein.
Encore, tu ne comptes pas les films. Et qui sont, oui. Il y en a au moins 3-4 par an.
Je ne comprends pas l'argument.
Peut-être qu'on peut chercher à être original quand on commence un roman. On va passer des années à écrire un roman. Chercher un sujet original.
Olivia.
Je parle sans haine, Frédéric. Tu n'as rien compris à ce livre. Non. Nelly a absolument raison. Ce n'est pas un livre sur les migrants, c'est un livre sur une femme. C'est un livre qui est le contraire de ce qu'il pourrait être, c'est-à-dire un livre avec des grands discours, avec des grandes idées, avec des réponses toutes faites à des questions vraiment très très compliquées, qui sont quelle attitude relativement digne peut-on avoir face aux réfugiés ? C'est quand même ça la question du livre. Après, c'est un livre qui est pas du tout politique, c'est un livre qui est très drôle, qui est très tendre, je trouve. Et c'est un livre pas du tout chromo, parce que c'est une femme qui, pendant tout le livre, justement, ne va pas avoir de courage. Elle est sur ce bateau. La peinture du bateau est géniale, c'est un truc avec que des retraités qui se bourrent la gueule le soir. En gros,
c'est une
croisière,
quoi.
Toutes les croisières sont l'habitude. Pas comme ça. Je sais plus comment elle dit. Elle a le sens de la formule et je trouve qu'elle a une écriture très fluide et très belle. Et depuis Truisme, pardon Frédéric, mais elle a écrit des très beaux livres.
Oui,
il faut beaucoup aimer les hommes,
très
c'était très beau.
Ouais.
Naissance des fantômes, c'était très beau. Et je pense vraiment que c'est une des écrivaines aujourd'hui les plus subtiles. Et ce livre est vraiment subtil, je vous assure. Et elle rencontre, elle voit un garçon et elle se dit, tiens, si je devais adopter un enfant, ça serait lui. Et elle a une sorte de geste complètement impulsif et absurde. Il lui demande un téléphone et elle va voler le téléphone de son fils ado qu'elle lui donne. Et après, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle se sent assez coupable, mais elle ne le dit à personne. Le fils cherche, c'est un ado, donc comme elle dit, les enfants sont sans portable, c'est comme s'ils n'avaient pas de zizi. Donc il est découragé. Mais oui, parce que tout le livre est plein de petits trucs, je trouve, quand même, sur l'absurdité de l'existence. Très marrant, comme tu dis, Nelly. Et du coup, tout le livre, elle a un lien invisible qui est ce fil avec ce téléphone qui parfois sonne et elle sait que c'est ce garçon Younes qui l'appelle. Et c'est pas du tout chromo, parce qu'elle dit merde, qu'est-ce qu'il va me demander ? Il va me demander de l'argent, il va me demander de l'aider. Et elle n'est pas capable de l'aider. Moi, je trouve que c'est un livre très juste.
C'est un livre. Au bureau de la production, mais
oui.
Chez M6.
Non, pas du tout.
La mère
non,
à l'envers.
C'est pas vrai. Les femmes n'écoutaient pas.
C'est Marie Darieux. C'est qu'au moins on sait que les femmes aiment, les hommes n'aiment pas. Et c'est chez POL. On le verra effectivement bientôt, comme le rappelait Nelly, avec les romans de Jean-Philippe Toussaint, d'Aurélien Bélanger et du Britannique Jonathan Coe. L'Europe est un thème très porteur dans cette rentrée littéraire. Je ne sais pas s'il sera très vendeur, mais il est porteur. Et voici que Laurent Binet, l'auteur de HHHH sur l'assassinat, souvenez-vous, du nazi Heydrich, Goncourt du premier roman, signe chez Grasset Civilisation. Alors c'est au pluriel et c'est avec un Z. Une uchronie donc, dans laquelle il imagine que Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique et qu'en 1531, eh bien, les Incas, conduits par Atahualpa, ont envahi l'Europe de Charles Quint, des guerres de religion, de l'Inquisition, de l'imprimerie et du capitalisme naissant. Ce qui a manqué aux Incas pour résister aux conquistadors, c'était très important le cheval, mais aussi le fer et aussi les anticorps. Laurent Binet, donc, le donne aux Incas. Quant au titre, eh ben, il vient d'un jeu vidéo que je ne connais pas, de conquête auquel Binet dit avoir beaucoup joué autrefois. Olivia.
Laurent Binet a beaucoup de chance parce qu'il m'a accompagnée tout l'été. Son livre a voyagé partout avec moi, en Espagne, dans le sud, en Provence.
Donc il a pris le sable,
il a pris le sel, tout.
T'es pas allé en Amérique du Sud ?
Et... Mais je n'ai jamais réussi...
Est-ce qu'il a été élu par M. de Lamberturie ?
Non, qu'il n'a pas voulu. Il a refusé. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce titre à la con ? Je lui ai dit, mais si, c'est une référence à un jeu vidéo vachement marrant. C'est un mec hyper drôle, hyper brillant. Et lui, il lisait Tolstoï. Il a refusé de s'interrompre. Donc moi, j'ai été obligée de m'y mettre.
Je rappelle qu'il avait fait le récit de la campagne de François Hollande, qui était quand même moins drôle que Civilisation.
Heureusement, il y avait la quatrième de couverture pour m'expliquer les règles du jeu. Donc, tu viens de les donner. Après, je n'ai jamais réussi à rentrer dans ce livre que j'ai trouvé tellement ennuyeux, tellement parodique et tellement pas écrit. C'est surtout ça le problème. Avant, Laurent Binet, qui est un gars que j'aime bien par ailleurs, parce que je trouve qu'il est très malin, il s'emparait de sujets Hitler, François Hollande, Roland Barthes, qui faisaient que...
Qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Hein. Rien à voir.
Pour nos auditeurs qui nous prendraient en cours de route.
C'est son œuvre. Et il y avait quand même tellement d'enjeux dans ce qu'il racontait qu'on pouvait comme ça passer sur la phrase. Là où
alors
moi j'ai
là,
rien compris à l'enjeu.
La colonisation, c'est pas un enjeu, on s'en
non,
fout.
Non, mais j'ai rien compris, moi, les anticorps, tout ça, excuse-moi, j'ai toujours pas compris comment ça marchait et tout ça. Et là, on s'aperçoit que quand même la phrase est assez pauvre, assez plate, qu'elle est pas là pour nous faire monter sur les chevaux. Non, j'ai pas été jusqu'au bout.
Le paradoxe étant d'ailleurs qu'une uchronie en général, c'est plutôt bref. Et là, en revanche, il a choisi de le faire sur la longueur. Non. Tu as aimé, Frédéric ?
Pas tellement, mais je salue quand même la technique. Je trouve que c'est assez irréprochable comme projet. C'est un projet très, très ambitieux. Et je trouve que quand il pastiche, par exemple, le journal de Christophe Colomb ou qu'il se met à imaginer quelque chose à la manière de Cervantes, on sent quand même qu'il y a un énorme travail et une ambition. Bon.
Justement, on sent
c'est
un petit peu trop
aussi,
le travail.
C'est peut-être aussi la limite de l'exercice, parce que les uchronies, ça marche s'il y a un personnage auquel on puisse s'identifier. Et comme là, c'est construit de cette manière très savante, avec quatre parties distinctes, j'ai pas réussi à m'attacher à un ou plusieurs personnages. Si vous voulez, c'est ce genre de grand projet de roman total, comme le Tristan Garcia, dont on a parlé ici, Âme, qui commençait chez les Australopithèques pour se terminer chez ma grand-mère. Et finalement,
qui n'est que
le premier volume. Là, je me dis, ces garçons-là, ils sont peut-être... Et Aurélien Bélanger aussi a ce problème. Enfin, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais c'est très, très compliqué ensuite d'écrire un vrai roman auquel le lecteur puisse adhérer, être ému. Et là, bon, c'est vrai que parfois, l'écriture, elle empathie un peu, c'est simple. Le pays était beau, page 15, et aussi page 87. Donc quand c'est un viking et quand c'est un inca, le pays était beau.
Il y a quelques pages entre
les
deux.
Et pourquoi pas ? Oui, oui, oui. Oui.
Jean-Claude ?
Et en plus, ça arrive. Ça arrive que le pays soit beau, c'est pas... Non, moi, j'étais très partagé, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était une fresque ébouriffante, sensationnelle, assez impressionnante, ouais. Et j'ai bien aimé cette fantaisie, comme ça, de mettre l'histoire cul par-dessus tête, d'imaginer qu'en effet, les Incas allaient nous envahir avec leur culte du soleil, qui vont être ensuite battus par les Mexicains. Mais c'est vrai que je me perdais à certains moments, et je te rejoins là-dessus. N'empêche, je te rejoins là aussi, je trouve que l'ambition, elle était quand même gonflée. Puis moi, je lui pardonne beaucoup, si tu veux, c'est qu'à un moment comme ça, quand il imagine un retournement de l'histoire, et en effet, une colonisation qui est absolument différente, l'idée, au bout du compte, que Bordeaux devienne la capitale de la France définitivement, est une idée qui a tout pour me séduire.
C'est ça, ton...
Qui a tout pour me séduire, et du truc. Coup, j'ai une vraie indulgence pour Laurent Binet, et je pense que sa vision
de
l'histoire...
C'est un vrai argument de
critique littéraire. Oui, absolument. Non, mais... oui. Et je trouve que sa vision de l'histoire est très forte. Ouais. Voilà.
Quelqu'un comme Umberto Eco aurait pu faire ce livre-là vraiment en réussissant vraiment ce livre-là.
Mais je pense qu'Umberto Eco ne prenait pas de LSD. Moi, je me rappelle, Frédéric, tu avais vu une citerne, un camion-citerne rempli de LSD arrêté devant chez Gallimard. Oui. Alors là, je dirais pas qu'il a été jusque chez Grasset, mais en tout cas jusque chez Laurent Binet, parce que je crois que la seule explication, c'est ça. À chaque fois que je le lisais, je me disais, enfin, d'abord, quand j'arrivais à lire quelques phrases, parce que le reste est complètement incompréhensible, comprend. Non, c'est incompréhensible. Ah, si tu ne connais pas l'histoire des Incas par cœur, l'histoire de Christophe Colomb, donc comment tu peux avoir comme ça, dans la compréhension de son journal, hein, inventé, on n'y comprend rien. Tout ça, pourquoi ? C'est n'importe quoi. Et chapeau.
Et le principe des uchronies. Hein.
C'est un trip. Non, il y a des uchronies réussies. Par exemple, le complot contre l'Amérique de Philippe Roth, excuse-moi, c'était romanesque. Et on comprenait quelque chose, et puis ça voulait dire quelque chose. Mais là, imaginez que les Incas envahissent l'Europe parce qu'ils ont le fer, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont les chevaux, et je ne sais plus quoi encore.
Enfin, ça fait quand même beaucoup. Les anticorps.
Très important, ne sortez jamais sans vos anticorps.
Grâce aux Vikings.
Mais grâce aux Vikings. Oui, alors les pages sur les Vikings, c'est n'importe quoi aussi. C'est une liste de noms incompréhensible.
Oui, mais c'est drôle.
Et on sent Laurent Binet dire
c'est pas la faute de Laurent Binet s'il est nordique ou des noms bizarres.
Mais quelle histoire.
Mais c'est drôle parce que précisément il égare le lecteur. Le lecteur est absolument paumé. Il se demande si c'est du lard ou du cochon, si c'est du sérieux ou si c'est de la fantaisie. C'est marrant.
Civilisation, c'est Laurent Binet, c'est chez Grasset. On a très peu de temps pour évoquer Mon année de repos et de détente, traduit chez Fayard. Par Clément Baude, le roman de la jeune Otessa Moshfegh, 38 ans, née à Boston, fille d'un Iranien et d'une Croate, dont le roman Hélène, ça je ne l'avais pas lu en 2015, lui a valu le prix Hemingway. L'héroïne de ce roman, eh bien, ne trouve rien de mieux à faire, après avoir décroché le diplôme de l'Université de Columbia, que d'entrer en hibernation à l'aide de somnifères. Alors ce n'est pas la mort de ses parents, toute récente, qui la pousse à dormir. Mais tout simplement, le vide existentiel, c'est très important, et l'ennui, et c'est peu dire que son réveil en septembre 2001 va être plutôt brutal. Alors l'éditeur parle d'une Oblomov de la génération Y, qui à la fois somnole d'un bout à l'autre du roman et trouve le moyen de dénoncer les travers de notre époque. Ça, Frédéric, tu as...
C'est génial. C'est absolument génial. J'ai adoré ce
livre. Un livre où on dort tout le temps, t'aimes ça.
Je trouve que... Oui, mais parce que c'est tellement drôle, tellement humoristique, tellement désespéré. Enfin, un livre avec un Welbeck au féminin. Parce qu'on attendait ça depuis longtemps, qu'il y ait enfin une sorte de version féminine de Sérotonine. Elle est complètement au bout du rouleau. Elle veut se suicider lentement au somnifère. Elle a une meilleure amie qui lui conseille des guides de développement personnel. Quand elle va dans un café, on lui dit un truc là. En fait, elle a du dentifrice séché sur tout le visage.
Moi aussi, ça m'a fait rire.
Franchement... En ce moment, il y a quelque chose dans le roman américain de passionnant. C'est cette école proche du New Yorker qui consiste à faire, oui, du roman existentialiste, mais aux États-Unis. Il y a eu Andrew Sean Greer. J'avais adoré Les Tribulations d'Arthur Miller, qui a eu le prix Pulitzer quand même l'an dernier. Et maintenant, on a cette fille-là. Je connaissais pas. C'est un génie. Elle est extraordinaire. Je suis fan de ce livre de bout en bout.
En fait, tu boudes la littérature française, si je te résume pendant cette émission, et tu portes au nu la littérature américaine.
Je boude la littérature française, sauf quand elle est écrite par des Américains.
Alors, Nelly ?
Oui, enfin moi ce qui m'a intéressé chez Otessa Moshfegh, c'est que alors Bratiston Ellis l'adore. Quand on a fait au journal un numéro spécial Bratiston Ellis, il l'a choisi pour être dans nos pages. Et elle, il faut savoir qu'elle a préfacé, elle adore aussi Bratiston Ellis, elle a préfacé la réédition de Less Than Zero. Alors pourquoi moi j'ai eu l'impression, alors l'histoire, s'il y a une histoire, mais tout ça se situe à la veille des années 2000, fin 90. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la réponse féminine, c'est l'héroïne qu'on attendait pour, répondre, pour être une réponse aux héros de ces romans, la Bratiston Ellis, Gemma Kinnearney, de mecs désabusés qui prennent de la drogue, qui prennent de l'alcool, qui parlent de cul, qui regardent des pornos. Il y a quelque chose de très, très pop. Il y a énormément de marques, de fringues. Il y a un passage sur les pharmacies qu'elle préfère. Il y a cette scène où elle regarde avec sa meilleure amie un film porno pendant qu'elle se bourre la gueule, elle prend des médicaments. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les deux ont perdu leur mère. Ça, je crois que c'est un livre sur une génération de femmes orphelines. Les mères en ont eu assez d'être des personnages secondaires des familles et de la société. Il y en a une qui se suicide. Et elles se retrouvent comme ça dans une espèce de vacuité. En fait, c'est d'une cruauté, ce livre, sur aussi une génération de filles qui est la nôtre, en fait, Olivia et moi, où on se retrouve à avoir grandi avec des rêves sentimentaux et à se retrouver avec une génération d'hommes qui n'est pas du tout dans ce moule, puisque eux font autre chose.
Olivia, pardon de t'arrêter, mais on n'aura pas le temps d'évoquer.
Bon, écoutez, c'est plutôt enthousiaste. Je suis plutôt enthousiaste.
J'ai beaucoup aimé. Ouais. Surtout que c'est pas du tout un livre morbide, je trouve. Tu parles d'un suicide, mais non, c'est le contraire d'un suicide. Parce qu'elle veut dormir pendant un an pour que son inconscient fasse le travail en dormant et la délivre de la mélancolie qui la mine. Moi, je trouve que c'est un projet formidable.
Oui, enfin, elle prend des risques avec sa santé, quand même. Hein.
Oui, elle prend un petit
c'est
peu
trop. C'est toi qui dis ça ?
De médicaments. Mais en même temps, c'est pas plus fou comme projet que tous les trucs de développement personnel, que tous les gens qui vont manger des limaces dans les forêts, sans eau et sans nourriture pendant 3 jours, pour retrouver le chemin d'eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est aussi une formidable critique de la société d'aujourd'hui, de l'apparence, du développement personnel, et fait de manière très drôle. Il y a un personnage de psy absolument génial, qui oublie tout et qui soigne pour qu'elle puisse se faire rembourser ses médicaments. Elle lui donne pas des médicaments pour la faire dormir, mais des médicaments qui ont toujours des effets secondaires qui consistent à la faire dormir. Donc elle prend des médicaments pour lutter contre le syndrome de la jambe agitée, par exemple, des trucs fous. Les hommes en prennent assez pour leur grade.
C'est génial.
C'est vraiment... À la fois, je trouve très profond et très amusant.
Quand elle rencontre son ex, enfin la première
ex,
fois,
et elle dit, elle dit,
et on a marché des heures en nous mentant l'un à l'autre sur nos vies heureuses.
Et l'ex, il se masturbait sur Britney Spears et Janis Joplin. Je ne lui ai jamais pardonné cette duplicité.
Ordinaire. Jean-Claude.
Ah, moi, je vais pas faire long. C'est un livre absolument soporifique, superficiel.
Oui, bah
le seul mouvement de ce livre, c'est sa vacuité. Ça n'a aucun intérêt. C'est un aspirateur à air du temps. Et tous les reproches que vous avez faits à Karine Tuile, je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends mieux, en effet, que faisant l'éloge de ce livre qui est vain, qui n'a pas de style, qui est superficiel, qui est insignifiant,
je comprends
mieux comment les écrivains qui ont un vrai propos... Vous ne pouvez pas les supporter.
Mais ce livre est emmerdant, c'est pas possible, on a l'impression
de longer les murs de la ville remplis de publicité. Mais il n'y a rien dans ce livre. C'est même assez inquiétant. Je veux dire, votre enthousiasme collectif est assez inquiétant. Mais c'est emmerdant. Moi, mon attention, elle n'arrivait pas à se concentrer. J'avais l'impression tout le temps de glisser sur une paroi lisse. Tout le temps.
Le personnage de la meilleure amie est génial.
Franchement, c'est horrifique. Franchement, perdez pas votre temps avec ça.
Le fait que Jean-Claude n'aime pas, est bon signe.
Non.
Là, tu vas parler avec méchanceté.
Oui, tu vois que la haine vient vite. Tu vois, ça vient vite. Voilà, mais si, ça vient vite.
C'est pas du tout fait pour toi.
Au moins, tu auras apprécié.
Alors, c'est pas fait pour moi, mais je tiens à dire aux auditeurs, c'est pas fait pour vous non plus.
Si tu les prends en otage maintenant, ça va mal se passer. Le titre, avoue-le quand même, est très bon.
Ah oui.
Mon année de repos et de détente. C'est chez Fayard et c'est donc signé Otessa Moshfegh. Allez, c'est donc, je le disais, la rentrée littéraire, des centaines de romans. J'espère que vous allez conseiller un premier roman. Il y en a 70 ou 80 qui sortent cet automne. Jean-Claude.
Alors moi, je prends le pari. Je suis en train de vous parler de la révélation de cette rentrée. Le livre dont on va parler, c'est certain. C'est le livre d'un écrivain qui arrive de nulle part. Son premier roman, 54 ans. Il envoie ça au Seuil, sans désigner un éditeur. Le livre est fabuleux. 700 pages. Ça s'appelle « Et l'ombre emporte ses voyageurs ». Déjà le titre. C'est absolument extraordinaire. Vous verrez qu'on va beaucoup en parler dans cette rentrée. Vous verrez. On parle d'un nouveau Céline. Moi, j'ai vu aussi du Raymond Guérin. C'est très fort. C'est d'une invention. Il y a un univers poétique. Il y a une langue tout à fait nouvelle. Excusez-moi, mais là, il y a de la consistance. Là, c'est autre chose que les auteurs new-yorkais qui dorment à longueur de page. Là, vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. C'est la révélation de la rentrée. Marin tince et l'ombre emporte ses voyageurs.
Olivia.
Avant d'aller dormir un an, je vous conseille... Non, je peux dire que mon livre préféré de la rentrée, c'est Eden de Monica Sabolo, chez Gallimard.
On va en parler au masque. Hein.
Voilà, parce que la langue est magnifique. C'est un livre qui se passe dans les forêts, où des jeunes filles disparaissent.
Il n'y a pas de limaces.
Il n'y a pas de limaces, mais il y a beaucoup d'animaux. Il y a une chouette, il y a un renard. C'est un livre, c'est le livre le plus...
Ça change tout. Hein.
Magnifiquement... Il y a beaucoup d'animaux.
Tu m'as convaincu.
Tu pourrais nous donner un conseil de lecture.
Le plus magnifiquement écrit de la rentrée. Sinon, moi, j'ai aimé un livre qui s'appelle Le bal des folles de Victoria Mas chez Albin Michel. Très intéressant.
La salpêtrière.
Charcot règne en grand seigneur.
C'est la fameuse fête de la mi-carême.
Et à la salpêtrière, on emprisonne à peu près toutes les femmes qui ne sont pas seulement folles, mais qui sont emprisonnées, j'ai fait exprès, parce qu'elles sont vraiment emprisonnées juste parce qu'elles sont un peu rebelles, qu'elles ne veulent pas se marier, qu'elles ne veulent pas obéir à leurs parents. Victoria Mas, qui est la fille de Jeanne Mas, il faut le dire, imagine, je trouve, une intrigue qui marche très bien et qui finit par ce fameux bal des folles où toute la bourgeoisie et les artistes...
Tous les Parisiens venaient observer et danser avec les... Les folles qui
pour l'occasion, se confectionnaient des beaux habits ou des déguisements.
Et tout est vrai, en plus, dedans.
C'est vrai, c'est très juste, c'est un très beau livre. Oh, je suis contente
de l'avoir. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le mien, eh bien, il s'appelle, mon conseil, c'est un premier roman qui s'appelle « Ce que je suis, ce, C-E-U-X », qui paraît chez Finitude, du franco-britannique Olivier Dorchamps, et qui raconte avec une étonnante justesse de ton, alors qu'il est franco-britannique, le voyage au Maroc d'un prof d'histoire géo qui accompagne en avion le cercueil de son père, un garagiste de Clichy qui voulait vivre en France mais être enterré à Casablanca. Et c'est un très beau livre, je trouve, sur les origines et sur l'identité. Signé donc Olivier Dorchamps chez Finitude, Ce que je suis. Le conseil de Nelly.
Alors, en fait, j'ai oublié qu'il fallait que ce soit un premier roman, donc j'en ai deux, en fait, conseils pour aller très vite. Le Léonora Miano qu'on a mis en couverture du numéro de Rentrée littéraire des Inoccupables, Rouge Impératrice, chez Grasset, qui est à mon avis l'un des plus ambitieux, sinon le plus ambitieux roman de la rentrée. Et puis celui qui m'a bouleversée, parce que je suis son travail, et là je trouve qu'il fait un pas de côté pour... parler d'une histoire qui arrivait à son grand-père, c'est Santiago Amigorena, oui. Le ghetto magnifique. Intérieur chez POL. Et il raconte comment son grand-père, Vincente Rosenberg, qui avait quitté le Varsovie en 1928 pour s'établir à Buenos Aires, va suivre de lettre en lettre ce qui va se passer
sans toujours
à Varsovie,
y répondre.
Le ghetto, voilà, sans toujours y répondre et sans toujours les recevoir, ouais. À temps en tout cas, et en comprenant peu à peu que sa mère et son frère et sa sœur qui sont restés à Varsovie sont murés vivants avec d'autres juifs dans le ghetto, et peu à peu ce qui s'y passe, je vais pas tout raconter,
non.
Et c'est bouleversant de montrer comment ceux qui sont sauf, en fait, voient peu à peu leur famille détruire et prise au piège du nazisme sans pouvoir rien faire. C'est magnifique.
Et comme je pense comme toi, on va l'inscrire également
à ce
prochain.
Ah oui, ce sera. Oui, moi, je pense comme toi aussi.
C'est chez POL, Santiago Amigorena. Et on termine avec Frédéric, son conseil.
Alors, j'ai regardé tous les premiers romans et le seul
tous
qui...
Tous les premiers romans
Tous, attentivement.
Mais quel menteur.
Peut-être sauf celui de Jean-Claude, là, parce qu'il est un peu long. Mais c'est vraiment celui qui m'a fait le plus rire. Et c'est donc lui, la vraie révélation de la rentrée littéraire, c'est Alexandre Labruf, chronique d'une station-service chez Vertical. C'est un pompiste dans une station d'essence qui regarde les clients et qui note tout ce qu'il voit.
Il se passe que ça ?
Il se passe que ça.
Mais ça n'existe plus, les pompistes.
Ils achètent du Coca Zéro. Non, mais il tient la caisse, si tu veux, il tient la station, en fait. Et il compte le nombre de litres de diesel qu'il a vendu en un an, c'est 455 000. Et notre planète se réchauffe à cause du pétrole que nous brûlons. Et lui, il va aux premières loges, il va là où ça se passe. il va là où le mouvement des Gilets jaunes est né, parce que c'est aux pompes à essence que ce mouvement est né. Donc c'est à la fois très urgent politiquement et totalement délirant.
Ce qu'on comprend,
j'ai énormément ri.
Ce qu'on comprend, c'est que tu as choisi le premier roman qui te prendrait le moins de temps. Et là-dessus, c'est vrai. Je l'ai lu aussi.
C'est vrai.
C'est excellent.
Et ça prend pas beaucoup de temps. C'est vrai. C'est vrai.
Bon,
c'est le temps de
l'émission.
Se
termine tous ces conseils. S'il vous plaît.
Attends, et l'étranger de Camus, c'est très court.
S'il vous plaît. L'émission se termine.
C'est pas mal, l'étranger de Camus.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Nelly Caprielian, Olivia de Lamberterie, Jean-Claude Raspienjas et Frédéric Becbédé pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam à la technique. Il y avait, je les remercie, Jean-Michel Bernot, Cédric Chatelus, Sébastien Royer, Mathieu Tourin. La réalisation a été signée Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 29 août. Ce sera au Théâtre de l'Alliance Française. Ce sera au 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.